génocide des Tutsis.
Alors il faut que ces éléments du FPL acceptent de déposer les armes. Sinon, tout ce que nous avons dit, on va les tuer, puis on va tuer aussi tous les Tutsis.
Ma femme avait un enfant sur le dos. On lui a coupé la jambe parce qu'elle ne marchait pas assez vite.
Matin première.
Plus de 800 000 morts en 100 jours, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'était il y a 27 ans. Bonjour Jean Hatzfeld.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de 6 livres déjà sur le génocide, sur les récits de vie des bourreaux et des rescapés, sur leurs enfants aussi nés après les faits. Et dans votre nouveau texte intitulé « Là où tout se tait », vous vous intéressez aux Rarutu qui ont refusé de tuer, qui ont parfois sauvé des Tutsis. On les appelle les justes. Jean Hatzfeld, c'est à Niamata, à environ 40 km de Kigali, que vous vous rendez régulièrement depuis plus de 25 ans maintenant. Dans votre nouveau livre, vous parlez de votre passion intacte à écrire cette expérience vertigineuse du génocide Tutsi. Vous n'aurez jamais terminé, Jean Hatzfeld, le récit autour de ce génocide ?
Je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Je ne crois pas pour une raison simple, qui est que l'un des personnages essentiels, principal de mes livres, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est le temps qui modifie beaucoup les mémoires, les souvenirs, et qui permet aussi souvent de débloquer des pensées qui ne peuvent pas être dites avant, mais qui peuvent être dites à un certain moment. C'est un peu le cas d'ailleurs de ce dernier livre où je parle avec des gens qui ne pouvaient pas parler avant parce que voilà, il y avait un trou de poubelle où on avait enterré des cadavres dans leur parcelle, parce qu'ils n'osaient pas dire quelque chose. Et donc ce temps est très important et fait qu'il maintient vivant vraiment toute cette histoire pour moi. Et l'autre raison, c'est qu'un génocide, contrairement à une guerre, on n'a pas de réponse aux questions. Et donc toutes les questions suscitent de nouvelles réponses, de nouvelles questions, et on n'en finit pas en fait. Donc,
des questions et jamais de réponse, Jean Hatzfeld ?
On a des réponses parce qu'on parle beaucoup, mais on n'a jamais la réponse à la question essentielle de comment on peut basculer dans cet engouement sanguinaire.
Comment est-ce possible ?
Voilà, comment est-ce possible ? On comprend une guerre, mais on ne comprend pas comment on a pu tuer comme ça, aussi vite, en 7 semaines, 50 000 Tutsis dans la région de Niamata. Ça, c'est inimaginable, en plus, pour les voisins. C'est-à-dire, aucune raison rationnelle ne permet de le comprendre.
Ces Hutus qui ont refusé de participer à l'horreur, ils incarnent une sorte d'éclaircie du bien dans le brouillard absolu du mal. Jean Hatzfeld, c'est ça ?
C'est un petit peu le départ du livre. C'est quelqu'un qui me disait on a assisté en direct et sans fioriture à la lutte du mal contre le bien, et le mal a gagné. Et moi, j'ai voulu montrer que c'est vrai que le mal avait gagné, mais que le bien avait lutté quand même. Et il y a eu quand même des îlots de bonté, des îlots de courage, des petits îlots de gentillesse dans ce chaos du mal, et qu'il fallait le souligner. Et ça m'a d'autant plus intéressé que ces gens qui ont sauvé ou qui ont aidé ou qui se sont opposés ne suscitent aucune honorabilité, aucune notoriété, aucune gratitude.
Comment ça se fait, Jean Hatzfeld ?
Eh bien, dans la communauté Hutu, ils incarnent un peu la trahison de la communauté Hutu, ou alors ils renvoient l'image un petit peu de ce qu'il aurait pu être fait. C'est-à-dire que la défense un peu de tous les tueurs Hutu, c'est de dire on était obligé, on était victime à notre tour, on ne pouvait pas faire autrement. Et eux, en faisant autrement, ils montrent que c'est un mensonge, ça. Et dans la communauté Tutsi, il y a cette idée que ce n'est pas possible qu'il y ait eu des gens bien. C'est-à-dire que les Tutsis, malgré eux, portent un soupçon, un irréductible soupçon contre toute la communauté Hutu en disant « Bon, peut-être qu'il y en a qui ont sauvé, mais par ailleurs, ils ont dû tuer. » Ils ont quand même un mal incroyable à imaginer qu'il ait pu y avoir des gens bien.
Vous nous en avez dit un mot dans ce nouveau livre. Vous nous parlez de ces trous repérés dans Nyamata, des trous dans lesquels furent jetés des corps pendant le génocide. Vous écrivez à propos de l'un de ces trous, « N'importe qui pourrait trébucher dedans. De près, on distingue à l'intérieur des bouteilles en plastique, des morceaux de bois, des papiers, pas assez pour laisser croire à une poubelle. On a du mal à comprendre que 70 personnes furent jetées là il y a 25 ans. Pourquoi est-ce que ces trous, ces charniers, Jean Hatzfeld, sont laissés à l'abandon ?
Il faut comprendre, il y a eu une explosivité des tueries. Donc il fallait se débarrasser, parce que les Hutus continuaient à vivre à Nyamata tandis qu'ils tuaient. Mmh. Et donc il fallait se débarrasser au plus vite des cadavres pour pouvoir avoir une vie à peu près décente, et que ça ne sente pas trop mauvais. Donc, on a jeté tous ces cadavres où on trouvait. On ne s'est pas donné la peine de faire des fosses communes, etc. Dès qu'on trouvait un trou, on jetait des cadavres. Et par après, ça a été très difficile au tout de désigner où étaient ces trous. Donc, il y en a qu'on trouvait naturellement, parce qu'il y avait un gonflement de terre, ou parce qu'il y avait une canalisation qu'on cassait, etc. Mais il y avait beaucoup de trous qui étaient tenus cachés par la honte. Voilà, par la honte des gens qui avaient jeté ainsi des cadavres, par exemple, dans un trou de toilette, enfin, dans une fosse septique, ouais, ou dans un fossé, etc. Donc, c'est resté, et ça explique aussi, parce qu'on savait quand même l'existence de ces trous, et ça explique aussi le silence de certaines personnes, et les irréductibles soupçons dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on vit avec cette idée qu'il y a partout dans tous les trous des cadavres, on a quand même du mal à imaginer qu'il y a eu des gens bien. Vous voyez, c'est pour ça que je raconte un peu cette histoire du trou chez une personne où des votes avaient été jetés vivants, parce qu'on jetait les enfants vivants, parce que ça explique aussi la mauvaise volonté, le soupçon... et le silence et la méfiance des Tutsis à l'encontre des Hutus. C'est ça qui nourrit, c'est cette horreur qui nourrit ce soupçon.
Ces trous perpétuent le sentiment de dégoût qui imprègne sans fin la narration de ce génocide, écrivez-vous. Vous posez aussi la question de la limite du récit. Il y a des questions que vous évitez de poser aux Rwandais que vous côtoyez. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a des témoignages, des récits que vous décidez de ne pas partager avec vos lecteurs, Jean Hatzfeld?
Oui, parce que d'abord, il y avait le voyeurisme. Donc effectivement, quand je travaillais avec les tueurs, quelquefois, quand ils rigolaient de la manière dont ils avaient tué, ou quand ils racontaient comment ils avaient tué la première fois que ça les faisait marrer, je retirais ça, parce que je ne voudrais quand même pas attirer la lecture pour des motifs et des pulsions malsaines. Donc ça, je retire. Et quelquefois, effectivement, quand je vais trop loin avec une personne, une rescapée, une jeune cultivatrice, etc., je sens bien que je suis en train de forcer une intimité, une gêne, et je me retire, et je me retiens. Et c'était le cas notamment de cette personne dévote, qui est un personnage un peu central de ce dernier livre, où à un moment donné, je me rendais compte qu'elle était prête à aller plus loin, mais qu'elle était bouleversée de ça, que moi j'allais trop loin et qu'il fallait renoncer, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même preuve de délicatesse et d'humanité envers des gens qui en ont manqué à un moment terrible.
Là où tout se tait, c'est le titre de votre livre, ce silence des revenants, les revenants comme vous les appelez, comme vous l'écrivez, ce silence, est-ce qu'il a tendance à s'épaissir ou à se dissiper avec le temps qui passe? Qu'avez-vous observé, Jean Hatzfeld?
Eh bien, si vous voulez, les récits personnels, si vous voulez, les souvenirs changent. Parce que des personnes qui me parlaient, par exemple, qui avaient 15 ans, maintenant en ont 35, donc la réflexion change un peu. Si vous voulez, concernant ces personnes héroïques, formidables, le temps a joué favorablement, parce que je me suis quelquefois un petit peu énervé, si je puis dire, pas tant que ça, mais enfin que j'ai un peu brusqué certaines personnes, en leur disant, vous savez, si on n'en parle pas et que vous allez disparaître, on n'en parlera jamais. Et ce Mahandago qui s'est opposé au tueur et qui était abattu dans les deux premiers jours parce qu'il s'est opposé au tueur, si toi, Jean-Baptiste, qui l'a connu, tu ne veux pas en parler, on n'en parlera jamais, il va disparaître de cette terre. Parce que c'est juste qu'ils ont été tués. Ils n'ont quelquefois même pas une tombe au cimetière. Ils n'ont pas leur nom sur le mémorial. Ils ne sont pas évoqués le jour des commémorations comme aujourd'hui, le 7 avril, tous les ans.
Donc, mais si maintenant, ils ont un livre maintenant, Jean Hatzfeld, grâce à vous.
Exactement, exactement.
Un mot encore, dans un précédent livre, Papa de sang, vous donnez la parole aux enfants qui sont nés après le génocide, après les machettes et les 800 000 morts. Et je retiens le témoignage d'Immaculée, fille de rescapée Tutsi, qui explique « Je ne suis pas sûr qu'on puisse se comprendre un jour. Au fond, beaucoup de jeunes des deux ethnies dissimulent un désir de vengeance. » Il nous reste une minute, Jean Hatzfeld. Il faut espérer qu'Immaculée se trompe.
Elle ne se trompe pas. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut ne pas pardonner, on ne peut ne pas faire confiance absolue, mais on peut vivre ensemble malgré tout. Donc ces jeunes vont vivre ensemble. D'ailleurs, à Kigali, où il y a beaucoup plus de brassage, on vit ensemble. Mais ils ont hérité de quelque chose que je n'avais pas imaginé. Et c'est vrai que cet héritage va peser sur leur relation.
Merci.
Ce qui n'empêchera pas deux amoureux ou tout et tout si, ce qui n'empêchera pas de jouer au foot dans la même équipe. Hein. Mais il y aura toujours quand même ce fond de méfiance et de peur, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de peur partagée des deux côtés.
Cette trace indélébile. Merci beaucoup Jean Hatzfeld d'avoir été notre invité ce matin en direct sur La Première. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, c'est à lire, ça s'appelle « Là où tout se tait ». Bonne journée. Il est 7h24, les routes, tout de suite. Comment ça se passe sur les routes en ce moment ?
Eh ben, c'est assez compliqué, parce qu'il y a toujours des conditions hivernales avec de la neige par endroits, du verglas, et donc des conséquences, non pas en ce qui concerne les transports en commun, mais bien sur la route, camion sur le flanc, sur la ligne 9 de Charleroi, hauteur du tunnel Yernaux, qui est fermé, d'ailleurs, en direction de la 54. Sur le 411, deux infos, Namur-Bruxelles, tout d'abord, accident à Corroy-le-Grand, direction de Bruxelles, dans l'autre sens, à hauteur de Wavre, en direction de Namur. Accident sur le 19, Anvers-Bruxelles, hauteur de Malines-Nord, dans la bretelle d'accès qui est fermé en direction de la capitale. Accident aussi sur les 19 Anvers-Bruxelles à Vilvoorde en direction de la capitale. Et sur le 42 Mons-Liège, hauteur de Rhin, c'est en direction de Liège-Prudence.
Merci à vous Jean-Marc Strel pour toutes ces précisions.